Bon, Thierry Bonneton, nous sommes rejoints par Jonathan Boucher-Petersen, qui est à Libération, et par Éric Brunet. Vous écoutez,
moi,
Thierry Bonneton?
Un petit mot de réaction, c'est que je suis étonné quand on qualifie les trotskistes de pro-communistes. C'est-à-dire que si on va dans le détail, ils étaient trotskistes à cette époque-là. Dans les rues, ils se battaient avec le Parti communiste, avec la CGT.
Il a pas dit ça, hein.
Donc je trouve ça un peu bizarre de faire des grandes familles sur les trotskistes devraient s'excuser pour les crimes du régime communiste. Je trouve c'est tout à fait important de faire.
Pour d'autres crimes, pour les crimes notamment de la Trotsky.
Ouais, mais du coup, c'est plus exactement le même discours. C'est-à-dire que c'est pas les millions de morts du stalinisme. Ils n'ont pas été stalinistes, ces gens-là.
Je connais suffisamment bien l'histoire pour vous dire que
je sais bien.
Les trotskistes ont été particulièrement pourchassés par les communistes de Moscou.
Oui, c'est toujours bon à rappeler quand même.
Pendant la guerre d'Espagne, ils ont été les premières victimes, si je puis dire, ça c'est vrai.
Ça paraît un peu anachronique, mais c'est vrai que c'est des subtilités qui avaient du sens à l'époque quand même.
Non, mais le seul problème, c'est qu'ils présentent Trotsky comme un espèce de prophète formidable qui n'a jamais eu de main dans le sang. Je suis désolé, Trotsky a même baigné dans le sang à un moment donné, sacrément, puisque vous savez, au début de l'Union soviétique, enfin, ce n'était pas encore l'Union soviétique, la Russie bolchevique.
Mais voilà, on parle plutôt du début, on parle plutôt du début du XXe siècle et pas des années Staline. Non, mais c'est important parce que tout le monde n'a pas
le début du XXe. Moi, je suis très heureux, Jean-Jacques, de ce débat parce que je vis depuis des années comme une injustice, ce truc-là. Moi, j'étais dans des bahuts de province où tous les profs étaient cocos, et j'ai fait ma rougeole adolescente là-dessus. Je me disais, mais c'est quand même assez scandaleux, quand même, que tous mes profs soient communistes. C'était dans les années Giscard, début des années Mitterrand, parce que quand même, j'avais creusé, je me suis rendu compte, notamment réalisé des choses que tous les historiens savent bien, mais que dans les années 70 et 80, les news magazines français, je parle de la France là, les news magazines français à la mode, vous savez, ces hebdomadaires qu'on achetait beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui, vantaient souvent les régimes dictatoriaux comme celui de Pol Pot, et ont mis beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que les autres à se rendre compte que c'était des systèmes infâmes qui ont tué d'ailleurs beaucoup plus au XXe siècle que le nazisme. Quand on prend cette arithmétique macabre là,
ça je ne veux jamais entendre.
Eh ben moi
ça,
je vous en parle
parce
quand même,
que entre 1 million de morts et 5 millions de morts, où est la différence? Pardonnez-moi.
Même chose pour la révolution culturelle chinoise. Révolution culturelle chinoise, et même chose pour ces intellectuels français qui, à l'invitation par exemple de Brejnev, allait en Union soviétique et revenait, genre Jean-Paul Sartre, en disant la liberté est totale en Union soviétique. Et ça m'a toujours, j'ai toujours vécu ça comme une espèce d'injustice totale. Le fait également qu'il y ait toujours un parti communiste en France, c'est quand même anachronique. Le parti communiste français a fait des choses terribles. Je vais vous donner un exemple dont on ne parle jamais. Pendant la drôle de guerre, à la demande du parti communiste français, un certain nombre d'ouvriers dans les arsenaux, ont saboté des avions de chasse français pour qu'ils n'aillent pas bombarder les nazis, les Allemands. Pourquoi? Il y a eu des condamnations. Pourquoi?
Parce qu'il y avait le pacte
germano-soviétique. Et les communistes dans la résistance en 1940, autant vous dire qu'ils étaient plutôt rares, ceux qui étaient dans la résistance.
C'est pour ça qu'après De Gaulle les a pris au gouvernement, c'est ça. Ils n'étaient pas lucides.
Après De Gaulle, comme vous dites.
Mais ils n'étaient pas lucides.
N'essayez pas de sauver le parti communiste.
Je suis tellement heureux que ce débat s'ouvre. Qu'en pensez-vous?
Bon, ce qu'a dit M. Brunet n'est pas faux, et ce que dit
Jonathan Boucher n'est pas faux non plus.
Bon, maintenant, il y a deux périodes. Il y a la période de 30, enfin, ce qui concerne le Parti communiste français. Restons juste sur ce petit point d'histoire. Entre 39 et 41, il n'y a pas eu de résistance communiste, soyons clairs, et en vérité, même du soutien par rapport à l'Union soviétique et à l'alliance avec l'Allemagne. Soyons clairs. Ça, c'est vrai. À partir de 41, c'est évident que le communiste s'engage complètement dans la résistance. J'entends bien.
Il y en a beaucoup qui l'ont pas fait, des Français.
Mais bien sûr, la majorité, au bout d'un moment, ceci dit, ne jetons pas la pierre parce que nous n'étions pas. Donc, moi, j'aime pas parler voilà. Mais c'est vrai qu'il faut aussi rétablir un certain nombre d'histoires. C'est-à-dire que la force du Parti communiste, c'est de recouvrir cette...
Il jouait un rôle dans l'effondrement du nazisme. Mais ça, j'invite chacun à aller lire les livres d'histoire.
Oui,
tout le monde
sait que Staline a été un de ceux qui ont vaincu.
Vous avez soulevé un débat, là, je vous le dis. Bon, parlons de ce qui va se passer ce soir. Alors, je voudrais quand même que l'on regarde Emmanuel Macron à la lumière d'un chiffre que j'ai découvert ce matin, c'est pas Emmanuel Macron qui est en cause. Les embauches en CDI repartent fortement à la hausse, et notamment dans les entreprises de moins de 20 salariés.
Ça, c'est forcément une bonne nouvelle. Si on se base sur les chiffres de création d'emplois privés, il y en a eu deux fois moins en 2018 qu'en 2017. C'est pas pour noircir. Formellement, c'est quand même ça la dynamique.
Mais les demandes d'embauche sont en forte augmentation.
Tant mieux. J'ai l'impression qu'on invite plutôt les gens à travailler plus chacun dans leur travail plutôt que de se dire dire il va y avoir des gens en plus qui vont être embauchés. Oui. La solution pour tous nos systèmes de protection sociale, de financement du modèle, il y a effectivement cette ce dictat du chacun doit travailler plus. Mais formellement, quand on a 9% de chômage, peut-être faudrait-il que nous soyons plus nombreux à travailler. Et ce chiffre-là nous pousse plutôt dans ce sens-là.
La France aujourd'hui, c'est un petit bouchon de liège ballotté sur la mer, vous voyez. Alors il y a des bonnes nouvelles comme celles que vous donnez à l'instant. Je suis pas convaincu que Macron ait quelque chose à y voir. Hein. Il y a des conjonctures.
Non, c'est ce que je disais. Hein. Moi non plus.
Moi de ce grand débat, j'attends pas grand-chose et je suis de plus en plus. Je suis perplexe parce que finalement, vous savez, je suis un peu anard. J'ai jamais voté de ma vie, mais je me dis quand même tous ces politiques qui commencent leur propos en nous disant j'ai les valeurs républicaines, c'est le suffrage universel. Là, on a un Macron qui a un revolver sur la tempe, qui a un couteau sous la gorge depuis des mois et des mois. Je parle de cette espèce de syllogisme, enfin de d'équation qui consiste à dire fais les réformes ou alors on pète tout le samedi, et qui ce soir devrait annoncer des réformes dont tout le monde attend tout. Alors vous écoutez les gens, ils attendent tout. Vous allez voir la phrase ce soir, rituel, ça va être « C'est curieux, je n'attendais pas grand-chose, mais j'arrive quand même à être déçu. » D'ailleurs, tout le monde va se rouler par terre en disant « C'est pas bien. » Bon, ça se sert à ça, droit, c'est sûr. Gauche, centre, gilet jaune, pas gilet jaune, tout le monde. Bon, ce monde est devenu fou. Aujourd'hui, on a un type qui a été élu, l'égalité républicaine, c'est le suffrage universel, mais quand même, il y a des gens qui disent « Bon, il va changer la France à l'occasion de ces claques qu'on lui a administrées tous les samedis pendant des mois et des mois. » Je trouve que ce monde est devenu fou. Où sommes-nous? Que devons-nous attendre de cela? La France est à l'os. Nous n'avons plus un copec, mais plus un copec. On emprunte de l'argent à des fonds américains pour payer nos fonctionnaires à partir du mois d'octobre, et on attend que ce soir, du haut de son magistère, Macron, qui aurait compris le peuple souverain, c'est-à-dire 80 000 ahuris avec des gilets jaunes, Macron change tout. Mais c'est absurde.
C'est un rapport à la démocratie qui est, j'espère, un peu daté.
Heureusement, vous êtes là pour me
corriger. Moi, j'avais pas compris qu'une fois on mettait un bulletin dans l'urne et qu'après, quoi qu'il arrive pendant 5 ans, si on faisait la moindre critique ou si on demandait la moindre chose, on était hors du champ démocratique et on remettait en cause l'élection. Moi, j'avais pas compris ça. Je pensais que le débat était un petit peu permanent. Et je crois même que Emmanuel Macron a mis sur la table cette idée de démocratie délibérative qui est censée justement faire qu'on prend des décisions ensemble tout le temps. Ça veut pas dire que la légitimité de sa présence à l'Élysée, mais être à l'Élysée, c'est quoi? C'est conduire le pays.
C'est aussi
ça
décider,
veut pas dire,
hein.
Ça, bien sûr, c'est décider. On peut pas dire qu'il n'ait pas pris de décision depuis le début du quinquennat. Il y a eu suffisamment de réformes qui ont clivé le pays et qui ont tendu les débats pour dire que oui, il y a un bilan Macron qui est critiquable, qui est contestable. Il y a des gens qui le soutiennent encore aujourd'hui. Mmh. Et c'est tout à fait légitime. Ils ne sont pas majoritaires dans ce pays. Ça pose quand même une question. Bah, vous le savez peut-être, Éric Brunet. Mmh. A priori, il n'y a pas 80% de gens qui soutiennent le président de la République.
Le président de la République, vous savez, ça pose bien un problème. L'opinion publique
vous n'avez pas l'impression qu'on régresse démocratiquement, ça se passe de plus en plus mal. Donc l'enjeu, c'est à savoir à qui il parle ce soir. Est-ce qu'il cherche à réconcilier les Français de manière générale? Exercice très compliqué.
Ou poursuivre
dans sa politique et se concentrer sur ces 25-30% de Français qui se retrouvent dans Emmanuel Macron parce qu'il y en a. Et que tel que le système est fait, ça suffit pour tenir le pouvoir et pour attendre 2022. J'ai peur que l'option de dire « je bétonne mon noyau » soit l'option du président de la République.
Nous verrons ce soir et demain matin, nous
en parlerons de plus près.
Nous ne manquerons pas
de nous rouler par terre en disant « mon Dieu, ça n'est pas à la hauteur, vous verrez ».
Que ça, il n'y a plus que ça. 7h58, merci d'être avec nous. Vous êtes sur RMC Découverte.